Alors oui, bonjour, il est 12h08, je viens d'écouter le flash de 12h sur France Inter, et la présentatrice nous annonce d'un ton enjoué que la mortalité a beaucoup régressé en 2004, sûrement grâce aux effets du gouvernement, alors que hier soir, en regardant la télé, on apprenait que c'était essentiellement dû au fait de la canicule de 2003, c'est-à-dire que les gens qui devaient mourir en 2004 sont morts avant, grâce à Mattei. Eh bien voilà, quoi, c'est une drôle de façon de présenter l'information. Donc merci Matignon et merci France Inter. Salut.
Les animaux vivant encore sur cette planète ont deux priorités dans leur existence. Survivre en tant qu'individu, survivre en tant qu'espèce. Toute pensée qui prétendant qu'une seule moitié est idéalisable tendra vers un zéro au long de murs qu'elle aura construit.
Bonjour à tous. Ben moi je me suis fait avoir. J'ai fait des études dans l'environnement parce que je pense que c'était une cause importante, tout ça, tout ça. Les illusions de la jeunesse, et puis bah, chômage, chômage, chômage. Et puis bah, le jour où on vous propose un poste et que dans l'intitulé il y a environnement, on y va, seulement devant, il y avait consultant. Et ben bah, voilà, et ben bah, j'ai compris, et je suis en train de le payer très cher. Donc et ben bah, qu'on fasse de l'environnement, on reste un consultant avec tout ce qui va avec, et on défend plus rien, et on est là pour faire du fric, et pour vendre du vent à des gens qui n'en ont pas besoin.
Salut Mermet, là, je viens de voir dans le Parisien, tu sais, la tour là qui a brûlé à Madrid. Bah, figure-toi que le cabinet Deloitte Consulting avait, je crois, une vingtaine d'étages de bureaux, bah, tout a cramé, voilà, il leur reste plus rien, les pauvres. Et voilà, je voulais le préciser parce que tu nous as fait une émission sur le consulting et bah, le cabinet Deloitte vient perdre 20 étages de bureaux, à peu près. C'est ce qui est noté dans le Parisien. Salut Mermet.
Bonjour Daniel, c'est Eric de Bordeaux. Une information m'a sauté au visage après tes excellentes émissions sur les consultants. Voilà, trois fonds de pension propriétaires du groupe de presse dont fait partie l'usine Nouvelle ont fait appel au cabinet de consultants AT Kearney. Évidemment, le but de cette restructuration, c'est de licencier et de revendre très très vite avec beaucoup de profit. On connaît les méthodes des fonds de pension. Et les consultants ont donc évalué les journalistes du magazine Usine Nouvelle. Et comment ont-ils fait? Eh bien, ils ont pris le nombre de mots produits par chaque journaliste. Voilà, nombre de virgules, de points, de paragraphes produits par chacun. Et les résultats est implacable. Taux d'utilisation du journaliste, évidemment, c'est on sent derrière la barbarie, c'est 60%. Et voilà, on est dans les nouvelles invasions barbares, la barbarie tout habillée de science dont parlait Pierre Bourdieu. Et on débouche naturellement, n'est-ce pas, sur la rentabilité des policiers au nombre de personnes arrêtées et incarcérées, et aux instituteurs évalués au nombre de premiers de la classe qu'ils sortent par an, voire la loi Fillon. Voilà, on pourrait peut-être évaluer l'émission là-bas si j'y suis, hein, par un cabinet consultant, ce serait amusant ça, n'est-ce pas Daniel? Allez, continue, c'est super. Au revoir.
Au revoir, ami du répondeur de la base, si j'y suis. D'autres messages dans un instant. Aujourd'hui, la pompe Afrique. Elf, la pompe Afrique. Un spectacle pas ordinaire du tout de Nicolas Lambert qui fait un tabac. Ce garçon est seul en scène et qu'est-ce qu'il fait? Il joue le procès Elf tout entier. À lui tout seul, tous les protagonistes du procès, ce fameux procès qui a eu lieu, vous en souvenez, en 2003 et qui n'est pas fini puisque bientôt on ira en appel. Et alors il a inventé, ou du moins il promeut, un style de documentaire théâtral. Vous savez que l'affaire Elf aura été un des plus grands scandales financiers de la Ve République, mais aussi un scandale politique, pas seulement financier, des réseaux liés à des partis politiques français avec la complicité des élites africaines rivalisent et ont rivalisé, mais rivalisent toujours pour s'approprier les richesses du continent africain au détriment des Africains eux-mêmes. Donc voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec donc Nicolas Lambert, le comédien et auteur de ce spectacle qui fait un tabac, et avec François-Xavier Verschave, François Xavier Verchat, vous le connaissez, c'est l'animateur inlassable de l'association Survie, qui scrute cette Afrique depuis des années, qui observe ce qui se passe dans cette Afrique et qui a publié un certain nombre d'ouvrages et toute une action pour dénoncer cette France-Afrique. C'est donc avec ces deux amis qu'on va passer cette heure de là-bas si j'y suis. D'autres messages, mais auparavant, je voudrais faire un petit abus de micro pour vous signaler, ça n'a rien à voir avec ce qu'on se dit là, une expo de peinture d'un peintre qui s'appelle Robert Wojanski. Et c'est une expo superbe à la galerie Nicolas Demand, 12 rue Jacques Callot à Paris dans le 75006, dans le 6e. Et il se trouve que Robert Wojanski était mon professeur de peinture décorative quand j'étais à l'école des arts appliqués. Et je l'embrasse et je lui souhaite longue vie et longue peinture encore pour très longtemps. 01 56 40 37 37, le répondeur, et après France-Afrique.
Oui, Daniel, bonjour. J'appelle du Limousin suite à l'émission d'hier soir où vous avez fait parler au sujet de son livre une personnage que je considère comme une des lumières de ce siècle, qui est Marc Ferraud, et qui a rendu hommage dans son livre et à l'antenne à Georges Guingouin. Il faut savoir que Georges Guingouin ici a laissé en Limousin une image exceptionnelle de quelqu'un de vrai. Et en plus, il y a des choses que l'on ne dit pas, que la mémoire collective aura malheureusement tendance à oublier et qui ont été occultées, à savoir que l'histoire officielle retient de la résistance des faits d'armes comme le Vercors, les Glières, où malheureusement les pauvres gens qui étaient là-bas ont été massacrés par les armées régulières de l'Allemagne en l'occurrence. Mais ici en Limousin, où nous sommes pauvres et l'armée de la résistance, commandée par Guingouin, dans les combats du Mont Gargan, eh bien cette armée de va-nu-pieds, de ploucs, de petites gens mal armés et mal équipés, a gagné une bataille contre une colonne blindée allemande. Je crois qu'ils ont eu 97 tués au sein de la résistance, mais il y a eu plus de 300 morts côté allemand. Et l'histoire officielle ne retient pas, est très silencieuse, à part des ultra spécialistes comme Ferraud, ne retient pas cette page. C'est trop difficile pour les militaires de considérer qu'une résistance faiblement armée puisse mettre en déroute et mettre une grosse branlée en quelque sorte à une des meilleures armées du monde. En fait, ce que l'armée française, avec toute sa cohorte d'officiers bien cathos, bien fachos, bien pensants, bien représentatifs de la société de l'époque, a été incapable de faire, en fait, une armée de paysans mal armés, c'est le cas de dire, en Limousin l'a fait. Voilà, je sais pas si vous passerez mon témoignage à l'antenne, je tenais à parler de ça. Salut Daniel, et merci.
Salut Daniel, c'est Cerise, Paris. Tu t'interrogeais tout à l'heure lundi avec Marc Ferraud. Comment la société allemande la plus cultivée d'Europe a pu arriver au nazisme? Pour cela, il faut absolument lire l'excellentissime ouvrage de la psychanalyste allemande Alice Miller qui s'appelle « C'est pour ton bien », qui décrit les conditions d'éducation des jeunes Allemands à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et forcément, ça a été lourd de conséquences. C'est vraiment un éclairage magistral. Et ce serait d'ailleurs très intéressant que vous consacriez une émission aux thèses de cette dame, donc Alice Miller, « C'est pour ton bien ». Merci, salut.
Ici Henri de Gérardmer. Aujourd'hui, c'est le 327e jour que Madame Benedetta Bernica, réfugiée albanaise, et ses deux enfants sont maintenus en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refusent de lui délivrer une carte de séjour en dépit des instructions formulées le 22 mars dernier par Monsieur Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Il apparaît nettement que Madame Bernica et ses enfants sont les victimes innocentes de luttes d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont en otage, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas.
Après avoir accusé à peine à demi-mot les enseignants de manipuler les élèves contre la loi Fillon, après que 100 000 lycéens ont manifesté dans les rues, M. Raffarin annonce aux jeunes un permis de conduire à 1 euro par jour. Mais qui manipule qui? Mais les lycéens qui travaillent avec leurs enseignants à développer leur sens critique ne s'y trompent pas, et ils savent bien débusquer la démago-attitude. Merci, Daniel, pour nous aider à cela aussi. Au revoir.
Bonjour, Daniel, c'est Dominique à Avignon. Je viens d'entendre sur France Culture la dernière de notre ami Pinault. Il a fait 3,7 milliards de bénéfices en revendant Executive Live. Eh bien, tenez-vous bien, c'est nous, pauvres contribuables français, qui allons rembourser cette somme aux Américains. Tu devrais faire une petite émission là-dessus, là, un peu dans le style Iron. À bientôt.
Salut Daniel, c'est une sorte d'anniversaire aujourd'hui parce que je t'avais déjà appelé l'an dernier lors de la grève des enseignants. Donc ce matin, je viens d'entendre le ministre Fillon, comme toujours drapé dans sa certitude et sa toge de ministre de l'Éducation nationale. Bon, à bien l'entendre, on supposerait que les enseignants ne sont pas mobilisés pour l'apprentissage des fondamentaux, hein, comme il dit, à savoir lire et faire compter, mais qu'ils se livrent avec leurs élèves à des activités subversives, hein, genre art plastique, éducation physique ou encore découverte du théâtre, hein, dans une salle de spectacle, où bien souvent les enfants ne sont pas encore allés ou jamais allés. Hein. Mais avec Fillon, tout ça, ça va changer, silence dans les rangs, hein, vraiment. Mais il oublie de dire que les dotations horaires, même dans les ZEP, hein, zones d'éducation prioritaire, sont drastiquement amputées. Et il y a même un recteur qui a asséné dernièrement que avoir 30 élèves au lieu de 25 en collège difficile, dans le Val-d'Oise, hein, pour ne pas citer, c'est qu'une question de confort pour le professeur. Bon. Un petit exemple pour éclairer la conscience du bon peuple. Hein. Toujours en ZEP, en 6e, les élèves ont 5 heures de français. À la maison d'éducation de la Légion d'honneur, à Saint-Germain-en-Laye, ils ont 6 heures de français, plus 2 en option. Donc, vive la réussite dans les banlieues, comme ils disent toujours. Encore un autre exemple, lorsque ma fille, qui a 30 ans, était en collège, elle avait 9 heures de français. Donc, ça n'augmente pas le nombre d'heures de français, ça diminue. Hein. Donc, c'était Françoise de Pontoise, mère de 2 enseignants en ZEP, qui sont en grève aujourd'hui. Et je rappelle que lorsqu'ils sont en grève, ils ne sont jamais payés. Salut Daniel et bonne journée, peut-être à l'année prochaine, au revoir.
Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. Les entreprises coloniales furent des œuvres d'humanité. Aujourd'hui, le gouvernement s'est donné comme tâche d'élever le niveau de la vie sociale chez l'indigène. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Nicolas Lambert et François-Xavier Verchave. France-Afrique, pompe Afrique.
Flight number 2, arriving from New York.
Actuellement, à l'exposition coloniale, cette ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers.
Les tossels. Oh, les saucisses.
La France-Afrique, François-Xavier Verchave. La France-Afrique, il y a quand même peu de causes qui sont aussi bien résumées en un seul mot. Hein? La France-Afrique. C'est, oui. C'est un mot formidable. C'est presque miraculeux, un jeu de mots pareil.
C'est pour ça, quand on monte dessus, en 1994, on ne l'a plus quitté, car effectivement, malgré les très grandes résistances à ce que cela désigne, les ignominies de la France en Afrique, le terme est parlant et maintenant il n'est plus récusable.
Vous l'avez trouvé comment, le mot ?
Eh bien, c'est en tournant autour d'un autre titre, « Ces messieurs Afrique », de Stephen Smith, qui était déjà sans doute, je pense, un jeu de mots, « Ces messieurs Afrique », c'est-à-dire « Ces messieurs Afrique », mais aussi pillant les richesses de ce continent. Et, bon, par association, je suis tombé sur ce mot, qui en fait avait été employé 30 ans plus tôt par Oufouette, mais lui c'était dans un sens fusionnel, car il ne voulait pas l'indépendance, tout simplement, il voulait qu'il y ait une espèce de fusion entre les anciens pays colonisés et la France.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce combat ?
Je n'en ai jamais eu envie. Personnellement, ce qui me motive depuis une quarantaine d'années, c'est le refus de l'extrême misère dans le monde, de la faim dans le monde. C'est pour ça que j'ai étudié, que je me suis battu et que j'ai adhéré en 1984 à la campagne survie lancée par 126 prix Nobel qui disait que ces questions de faim et d'extrême pauvreté n'étaient pas de l'ordre caritatif, de l'ordre humanitaire, mais relevaient de décisions politiques. Et pendant 10 ans, au sein de cette association, nous nous sommes battus pour faire en sorte que la générosité collective des Français et l'aide publique au développement servent vraiment à lutter contre la faim et l'extrême misère. Nous avons obtenu l'appui des 3/4 des députés. Et puis, cette loi, malgré ce soutien sans précédent sous la Ve République, n'a jamais été mise à l'ordre du jour. Et on s'est rendu compte progressivement que derrière la coopération, derrière la relation franco-africaine, cette soi-disant générosité, il y avait une corruption gigantesque, une criminalité économique incroyable, et avec la complicité française lors du génocide au Rwanda, on s'est rendu compte aussi que cette criminalité économique se doublait d'une criminalité politique invraisemblable, hallucinante. Et donc, ce refus, cette envie de notre association de dénoncer l'innommable n'a pas été un choix prémédité. Au contraire, au début, nous étions une association très consensuelle. L'aide publique au développement, ma foi, ça réunit à peu près tout le monde. Et on est tombé derrière sa négation totale, l'aide secrète au contre-développement et l'ensemble des manœuvres de confiscation des indépendances qui se sont traduites par d'innombrables guerres civiles, par le pillage du continent. Donc c'est pas du tout quelque chose de prémédité. On est tombé dedans par hasard.
Ah, vous êtes tombé dedans par hasard. Ça donne aujourd'hui l'association Survie. Ça donne une série de bouquins. En 98, vous publiez La France-Afrique, le plus grand scandale de la République. Vous publiez Noir Silence, vous publiez Noir Chirac. Et ça vous vaut quand même pas que des amis, vous faites pas que des amis en publiant ces bouquins, et notamment vous avez été poursuivi par des chefs d'État africains, vous avez été relaxé, enfin c'est quand même un combat assez rude.
Oui, mais on ne peut pas ne pas le mener, si vous voulez. J'ai été éduqué, comme beaucoup de Français, dans les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et je pensais qu'elles s'appliquaient. Quelque part, pour nous, pour nos enfants, c'est quelque chose d'inimaginable de se dire que, à la fois, nous prétendons aider les peuples du Sud à sortir de leur sous-développement, et qu'en même temps, on fait exactement l'inverse, et pas seulement des choses pas bien, mais le pire, souvent le pire, jusqu'au soutien à des génocidaires au Rwanda ou à des criminels contre l'humanité au Congo-Brazzaville. Donc, quelque part, on ne peut pas ne pas mener ce combat, et on s'aperçoit que progressivement, on retrouve autour de ce combat de plus en plus de gens. Bien entendu, les Africains se sont reconnus dans les analyses que nous avons faites longuement, et d'autre part, de plus en plus d'associations françaises, même au départ qui étaient réticentes, se rendent compte que nous avons raison et rejoignent notre combat, par exemple, contre les dictatures en Afrique.
Première règle, s'interdire toute ingérence, de quelque nature qu'elle soit, politique, militaire ou autre. La France ne l'accepterait pas chez elle, elle n'a pas à le pratiquer chez les autres. Deuxième règle, encourager nos partenaires africains, selon les modalités et le rythme de leur choix, à renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance, élément essentiel de la confiance, confiance intérieure des opinions ou extérieure des investisseurs, confiance essentielle pour le développement.
Une société, gabonaise de mer, française de père, elle s'appelle Elf Gabon. Grâce à Elf Gabon et à l'or noir, nous avons eu des hôpitaux, des usines, des routes, des maisons modernes.
Le tribunal.
L'audience est reprise, vous pouvez vous rasseoir.
Alors voilà, l'affaire Elf au théâtre, Elf, la pompe à fric, avec un seul comédien, mais qui fait absolument tout, qui fait tout le procès, et qui fait beaucoup plus que ça, il raconte l'histoire de cet énorme scandale qui est toujours l'affaire Elf, il s'appelle Nicolas Lambert.
Voilà, je suis allé assister au procès Elf quand il s'est déroulé au printemps 2003 et j'ai pris des notes et en même temps j'ai fait...
4 mois de procès.
4 mois, ouais. 4 mois de procès.
4 mois de notes.
Et avant 8 ans d'instruction, menée par Eva Joly notamment. Mm-hmm. Moi, mes 4 mois de notes se sont additionnés aussi au fait que je suis comédien et je fais éponge. Hein, quand je me mets dans un coin, je retiens un petit peu les façons de s'exprimer des différentes personnes. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que ne pouvaient sortir comme enregistrement ou comme trace de ce procès que les quelques maigres papiers. Il y en a eu, hein, il y en a eu des très bons dans la presse écrite, ou des caricatures aussi, parce qu'on peut faire venir aussi des caricaturistes dans les tribunaux, c'est qui nous disent un petit peu à quoi ça peut ressembler. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'utiliser ce média-là que je peux être, en tant que comédien, pour interpréter ce que je voyais, ce qui se racontait, et qui était atterrant. Quand j'ai commencé à mettre les pieds là, j'ai pas réussi à m'en décoller des 4 mois, parce que il était raconté sur un ton bonhomme et tout à fait sympathique, une façon de, entre autres, notamment, de déposséder des peuples entiers de leurs richesses et d'en faire bénéficier un autre pays, le nôtre, par le biais de cette entreprise-là. Et voilà, et tout ça pouvait être converti en commission, rétrocommission, répartie entre l'ensemble de la classe politique. Pareil, moi je viens, il y a marqué liberté, égalité, fraternité hein, sur le palais de justice. Quand j'arrive, je m'attendais pas à ce qu'on puisse raconter des choses pareilles à l'intérieur d'un tribunal. J'ai été un peu estomaqué.
Le tribunal.
L'audience est reprise, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Loïc Lefloc-Prigent, s'il vous plaît. Monsieur Loïc Lefloc-Prigent, vous nous avez bien dit que vous connaissiez l'existence d'une caisse noire destinée à financer les partis politiques.
Tout à fait. Ce système était en place quand je suis arrivé chez Elf. Il est de notoriété publique que les candidats à l'élection présidentielle avaient accès au secrétaire général du groupe et demander l'enveloppe correspondante. Beaucoup en ont bénéficié et le savent. J'ai considéré que tout ceci était entre les mains de M. Tarallo et de M. Sirvin. Durant toute ma présidence, je n'ai pas eu la vigilance qu'un président aurait dû avoir sur ces choses-là. C'est un gros défaut. Ces choses-là, je n'ai pas envie de les savoir. Je n'ai pas envie de les voir, je n'ai pas envie d'en parler, ça m'indispose. À Rhône-Poulenc, Gaz de France, à la SNCF, j'ai soulevé des couvercles d'où s'échappaient les mêmes odeurs nauséabondes. Je les ai aussitôt enfermées. Ces questions étaient annexes à ma mission.
Monsieur Loïc Lefloc-Prigent, Monsieur Alfred Sirvin, Monsieur Tarallo, s'il vous plaît, approchez.
Voilà.
Actuellement, à l'exposition coloniale, cette ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers.
Monsieur Loïc Lefloc-Prigent,
le système a été créé par le général de Gaulle.
Voilà.
De Gaulle.
Notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités.
quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. Quels sont nos intérêts?
Jacques Chirac m'a dit, ça n'ira pas jusqu'à la mairie de Paris. Je dois avouer que, sur le moment, je n'ai pas compris à quoi il faisait allusion.
Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Qu'il y ait eu des ententes avec une entreprise par-ci, une entreprise par-là. Mais ça, c'est tout à fait probable. Et qu'il y ait eu un système où les partis politiques de la majorité et de l'opposition se seraient bien ensemble pour se partager je ne sais quel gâteau. Si la justice est démontrée, je serai le premier à le condamner. Mais honnêtement, je n'y crois pas beaucoup.
François-Xavier Verchave, évidemment, vous avez vu ce spectacle. Vous avez nourri le spectacle aussi. Enfin, l'association Survie a nourri un peu ce spectacle, je suppose.
On l'a fait aussi beaucoup tourner en France et avec succès, parce que c'est un spectacle formidable.
Alors, on va évidemment en parler. Et la mort d'Alfred Servin nous en donne l'occasion. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de la mort de Yadema au Togo. Nasingbé Yadema est mort le 5 février dernier au bout de 38 années de pouvoir personnel, et il est très regretté par notre président de la République qui a fait une déclaration, enfin, pour regretter son ami personnel. Vos réactions?
Mais c'est même pas 38 ans, c'est 42. C'est-à-dire qu'en fait, Yadema est à lui seul une sorte de concentré de la France-Afrique. Il y avait un pays, le Togo, qui avait conquis son indépendance grâce à la mobilisation autour d'un leader qui s'appelait Sylvanus Olympio, contre la France. Ce leader avait été élu largement, gouvernait son pays, il ne voulait pas d'armée, et puis rentre au Togo une série de militaires franco-togolais qui avaient fait l'Indochine et l'Algérie, qu'on n'a pas eu de mal à dresser contre ce président civil, et sous la houlette de Focard, ce président a été assassiné le 13 janvier 1963 par Étienne Gnassingbé Eyadema, alors sergent-chef franco-togolais, qui est devenu tout de suite l'homme fort.
De ses propres mains, on dit qu'il l'a...
Il l'a avoué, à un moment donné. Ensuite, il s'est rétracté, parce que ça faisait quand même un peu tâche. Mais il l'a avoué à la presse, sur le coup. Et il est devenu, dès ce moment, l'homme fort, un peu comme Mobutu, juste après l'assassinat de Lumumba. On est dans un cas de figure similaire. Donc, il y a eu à peine 2 ou 3 ans d'indépendance du Togo, qu'aussitôt, la France a confisqué cette indépendance pour établir une forme caricaturale de néocolonie, avec à sa tête une sorte de gouverneur à la peau noire, puisque tous les intérêts d'Yadema étaient en France. Il se soignait en France, il faisait éduquer ses enfants en France, l'état de délabrement dans lequel il a plongé son pays n'avait strictement aucune importance. Il n'y avait pas de pétrole, mais il y avait un produit juteux, rentier, équivalent, qui s'appelait les phosphates, et les milliards et les milliards de francs des phosphates ont été partagés entre la cassette d'Yadema et son clan, et d'une part, et d'autre part, comme d'habitude, les réseaux politico-affairistes français.
Alors là, il y a sa succession qui a l'air d'être assurée par son fils, mais quand même, il semble que les Togolais ne soient pas entièrement d'accord.
Donc on a 42 ans de pouvoir, c'est une sorte de Ceausescu, la société civile est à genoux, tellement la répression policière a été interminable, et d'après la Constitution, qui était en vigueur au moment du décès d'Yadema, ça aurait été le président de l'Assemblée nationale qui aurait dû exercer l'intérim pour permettre des élections rapides, remplaçant Yadema. Et bien entendu, ce scénario était craint comme la peste par les soutiens d'Yadema, puisque un précédent en 1998 avait déjà donné un raz-de-marée électoral en faveur du fils de Sylvanus Olympio, Gilchrist Olympio. Et évidemment, à ce moment-là, nos conseillers juridiques de la France-Afrique, et là aussi le plus caricatural d'entre eux, le doyen Charles de Bâche, est allé en quelques heures faire une série d'entourloupes où on a modifier la Constitution pour que le fils Egadema puisse regagner son siège de député, qu'il puisse être élu à la présidence de l'Assemblée nationale, tout en empêchant le titulaire de rentrer. Ensuite, on a encore changé la Constitution pour faire en sorte que le remplaçant de Gnassingbé Eyadema ne soit pas seulement un remplaçant temporaire, mais le soit jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire en 2008. Autrement dit, on est en train de replonger pour des décennies dans la dictature Eyadema, qui est une des pires, des plus sordides d'Afrique. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que les Français s'indignent volontiers contre Pinochet, contre ceux qui soutiennent Pinochet, et nous, enfin tout au moins notre exécutif, l'Élysée, nos gouvernements, ne cessent de soutenir depuis 40 ans des dizaines de Pinochet.
La politique France-Africa, c'est du blague et tu l'es. La politique américaine-Africa, ouais, c'est du blague et tu l'es. Les âmes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres supplés de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du carré-tué. La politique américaine-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. C'est du blague et tu es. La politique américaine-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
Blague et tu es.
Blague et tu es. Ils veulent nous blague et tu
es.
Oh, ils se réveillent, vous. Ils veulent nous blague et tu
es.
Réveillez vous.
Blague et tu es.
Vigilance et résistance.
Pourquoi est-ce que depuis si longtemps, la classe politique française s'abstient de dénoncer ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est-à-dire le système de la France-Afrique ?
Mais il y a des intérêts énormes. La colonisation, ça a profité à beaucoup de gens. La colonisation, c'est au sens strict une exploitation. C'est-à-dire qu'on prend pour pas grand-chose les richesses d'un pays. Il y a du travail forcé, avant c'était l'esclavage. Et quelque part, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches à travers ces richesses naturelles. La néocolonisation conçue par Focard, le bras droit de Gaulle, c'est encore plus pratique. Parce que là, il n'y a pas le colon blanc qui s'impose. On met à la place un gouverneur qui a l'apparence d'être un homme du pays, d'être un Africain ou un Togolais, et qui continue la même politique, entouré de conseillers français, militaires, financiers, politiques, juridiques et autres. Et
puis on n'a plus l'alibi de la mission civilisatrice. On voilà, est obligé donc, de construire des hôpitaux, des routes et des écoles.
Exactement. Donc s'il y a des policiers qui torturent, s'il y a un flicage généralisé de la population, ça ne pose guère de problème, puisque notre président de la République a dit à un moment donné qu'il ne pensait pas que les Africains soient mûrs pour la démocratie.
Enfin, c'est quand même vite dit, parce que on a eu des politiques de gauche, on a eu des politiques de droite dans ce pays. Il n'y a pas que des gens, et il y a quand même des journalistes, il y a quand même des observateurs. Pourquoi un tel silence sur cette France-Afrique depuis si longtemps?
Alors, je renvoie à l'affaire Elf, la pompe Afrique. C'est que, évidemment, ce système extraordinairement juteux a été et est encore l'une des principales sources de financement de la vie politique, de la classe politique française, et par conséquent, très peu de leaders politiques français ne sont pas mouillés, compromis dans les retombées de la France-Afrique. Si on voit à travers ce que raconte Sirven, ou ce qu'il ne raconte pas, mais qui a été décrit par ailleurs, on sait bien que l'argent du Gabon, du pétrole du Gabon, du Cameroun, tout ça, a irrigué bien au-delà de la droite, à gauche, à l'extrême droite, et donc tout le monde a en quelque sorte un bœuf sur la langue. Et du côté de la presse, ça fait partie de deux ou trois domaines, comme le nucléaire, où tout ou presque est verrouillé. Ça fait partie des domaines où les services secrets jouent un rôle très important dans la désinformation, dans les pressions sur les journalistes. Et il y a finalement très peu de presse libre, de médias libres sur ces questions.
Ça fait un peu complot ce que vous racontez, non ? L'impression que vous êtes en train de décrire un complot, une machination.
Oui, c'est ce qu'on nous reproche parfois, mais vous savez, nous avons travaillé pendant 15 ans sur l'aide publique au développement. Nous n'imaginions pas que le côté secret était aussi important. Les services secrets, ça existe. Et la raison fondamentale pour laquelle on est, en l'occurrence, dans l'inavoué, l'inavouable, c'est que le point de départ est déjà une escroquerie au peuple français. En 1962, De Gaulle, terminant la guerre d'Algérie, a demandé au peuple français, par référendum, s'il voulait tourner la page de la colonisation. Le peuple français, à 80%, a dit oui. Il n'imaginait pas que dans le même moment, le bras droit de De Gaulle, avec toute une partie de l'Afrique, allait faire exactement l'inverse de ce qui était déclaré, c'est-à-dire mettre en place tout un système de dépendance, les réseaux Focard. Donc, puisque c'est contraire à la nouvelle légalité proclamée, ça ne peut être que caché, occulte. La France-Afrique est cachée parce que elle est contraire à la légalité internationale. Elle est inavouable. Et c'est pourquoi on dit c'est un complot. Mais effectivement, la France-Afrique, c'est un complot contre l'Afrique, c'est-à-dire la confiscation des indépendances. Et ce complot dure depuis 40 ans.
Je ne le savais pas pour une raison simple, c'est que en tant que président du RPR, je ne me suis jamais occupé, ce n'était pas ma fonction, pas plus que ce n'était celle, j'imagine, des autres responsables d'un grand parti politique, des problèmes de financement. Mais je vais vous dire très franchement une chose, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Qu'il y ait eu des ententes avec une entreprise par-ci ou une entreprise par-là, mais ça c'est tout à fait probable. Ça faisait partie de ces dérives que je dénonçais tout à l'heure. Mais qu'il y ait eu un système où les partis politiques de la majorité et de l'opposition se seraient mis ensemble pour se partager je ne sais quel gâteau. Bon, si la justice est démontrée, je serai le premier à le condamner. Mais honnêtement, je n'y crois pas beaucoup.
François-Xavier Verschave, on parle là du Togo. Il y a un éclairage en ce moment sur le Togo. Et encore, enfin, c'est une lampe de poche un peu. Ça va pas durer très longtemps à la suite de la mort de Yadema, mais parlez-nous des autres pays qui sont dans des situations analogues dans la France-Afrique.
Mais il y en a plus d'une douzaine. Alors, pour ne pas être totalement pessimiste, on peut observer que dans 4 ou 5 pays, depuis une dizaine d'années, les peuples ont conquis le droit de choisir leurs dirigeants contre la France. Ça a été le cas du Mali contre Moussa Traoré. Ça a été le cas du Niger contre le dictateur Focartien, le général Baremaï Nassara, ça a été le cas de Madagascar, où le peuple, après une lutte de 6 mois, a réussi à évincer le dictateur Didier Ratsirak. Ça a été le cas aussi, d'une certaine manière, du Sénégal, où on avait un pouvoir ultra corrompu, y compris par la fraude électorale, qui a été renversé par un mouvement civique assez exceptionnel en 2000. Donc il y a le Bénin aussi, où le dictateur a été renversé, même si le cas du Bénin est un peu plus compliqué. Donc ce n'est le maintien du système dictatorial france-africain n'est pas universel. Mais il y a une douzaine d'autres pays au moins où c'est encore le cas. Il y a Djibouti, dont on a parlé récemment avec l'affaire Borrell et Monsieur Omar Guelleh. Il y a les trois chefs d'État qui m'ont attaqué pour offense à chef d'État et qui ont perdu, Omar Bongo, Idriss Déby au Tchad, le Congolais Denis Sassou Nguesso, il y a l'éternel vacancier Paul Biya qui règne sur le Cameroun sans jamais réunir un conseil des ministres, il y a le Mauritanien, Ould Taïa, et puis on s'aperçoit qu'un pays comme l'Algérie, qui a conquis son indépendance, est maintenant sous la coupe d'officiers, de généraux qui ont fait leur classe dans l'armée française, et que la France-Afrique a tellement conquis l'Algérie qu'un ouvrage récent et célèbre a pu être publié sous le nom de la France-Algérie. Bon, j'en oublie encore.
Ben, la Côte d'Ivoire, parlez-nous de la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, c'est un cas un peu différent parce que il y a eu des élections. Ces élections ont été tronquées puisqu'on a évincé deux candidats. Mais on peut pas parler à proprement parler de dictature. Disons que on a là en Côte d'Ivoire une autre tare qui a été cultivée par la colonisation française et puis dans la période postcoloniale, c'est l'instrumentalisation de l'ethnisme pour continuer à régner dans de nombreux pays. Suivant cela les conseils de l'IOT, les officiers de l'armée française ont entretenu, y compris par la manipulation psychologique, la guerre entre les ethnies, en disant « mais si il faut que tel dictateur reste au pouvoir, parce que sinon les autres vont venir massacrer, etc. » Donc cet antagonisme ethnique, dont on peut montrer cas par cas dans chaque pays qu'il est très largement manipulé, qu'il est exacerbé, qui va bien au-delà des fondements réels de la vie quotidienne.
Et on sait à quoi ça mène avec le Rwanda, par exemple.
Tout à fait. Eh bien, bien sûr, des démagogues africains peuvent s'en emparer et c'est ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, je dirais, c'est un autre cas de la France-Afrique où Fouette était également l'image, la meilleure image de ce système. C'était le bras droit de Focar en Afrique, son correspondant privilégié. Il gouvernait, ivoirien, avec 30 ou 40 conseillers français blancs, sans un seul africain autour de lui. Et il a, malgré son image de papa gâteau, largement réprimé l'opposition et conduit son pays aussi à une ruine économique à travers les immenses détournements de l'argent, du cacao ou d'autres richesses. Donc, on est, dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans ce qui advient après 40 ans de France-Afrique. Comment un pays peut être dans un état de délabrement économique et surtout politique?
Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons.
Oui, François-Xavier Verchat, vous avez parlé de la figure de Focard, bien connue, mais enfin, ça se limite pas à cette personne. Le réseau français en Afrique, vous le dites, dure depuis plus de 40 ans. Il n'y a pas que ce personnage-là qui illustre ces réseaux. Comment ça fonctionne, ces réseaux?
J'ai beaucoup étudié la généalogie des réseaux. Au départ, c'est très simple. C'est Focard qui commande tout. Ses réseaux sont pyramidaux. Il a un bureau voisin de celui de De Gaulle. Et il contrôle tout. L'aspect militaire, barbouzard, économique, financier de la France-Afrique. Il a un second qui s'appelle Charles Pasqua, qui à partir de 1970 veut devenir calife à la place du calife. Et par ailleurs, il y a un conflit très important au sein de la majorité entre les gaullistes traditionnels, dont Focard fait partie, et les néo-gaullistes, qui sont soutenus notamment par Pompidou, et dont la figure de proue, le dauphin, s'appelle Jacques Chirac. Pasqua, pour le compte des néo-gaullistes, va à partir de 1970 prendre de plus en plus de place dans la France-Afrique et supplanter en quelque sorte Focard pour le compte de Jacques Chirac, qui, à partir de 1974, et donc depuis 30 ans, va devenir le patron de la France-Afrique, et qui, coup double, va réussir ensuite à récupérer Foccart et en faire son principal conseiller, ce qui lui permettra de prendre de la distance par rapport à Charles Pasqua. Donc finalement, c'est très simple, si vous voulez. Il y a eu d'abord Foccart, puis le tandem Pasqua-Chirac, qui est devenu un trio Pasqua-Chirac-Foccart. Et aujourd'hui, la figure centrale demeure Jacques Chirac. J'ai cru à un moment qu'il y a eu des réseaux Mitterrand, car effectivement, François Mitterrand, avec son fils, a pris sa part dans tous ces mécanismes.
Mais notamment au Rwanda.
Voilà, au Rwanda, oui, bien sûr. Mais je me suis aperçu qu'en fait, François Mitterrand s'était contenté, et on le voit très bien dans le cas de l'affaire Elf, de montrer sa capacité de nuisance et de se greffer sur le tronc principal de la France-Afrique pour prendre sa part. Et que finalement, le réseau Mitterrand était très proche du réseau Pasqua.
Mais là, le but de tout ça, c'est quoi? C'est le financement, détournement?
Oui, c'est, si vous regardez le prix réel...
Là, vous nous dites l'organisation, mais le fonctionnement, à quoi ça sert tout ça?
Si vous regardez le prix réel du pétrole versé aux populations africaines, tout détournement déduit, c'est-à-dire presque rien. Et le prix de vente de ce pétrole sur le marché mondial, eh bien, c'est des centaines et des centaines de milliards d'euros qui ont été volés à l'Afrique depuis 40 ans. Mais c'est la même chose pour les phosphates au Togo, pour le bois, c'était la même chose pour le cacao, pour d'autres matières premières, le coton, etc. C'est une entreprise, c'est comme ça qu'a commencé également la colonisation aux Antilles. C'est une entreprise d'exploitation purement et simplement. Et puis ensuite, il y a aussi des prétextes géopolitiques, la grandeur de la France à l'ONU, etc. Mais le moteur principal, c'est le fric. Mais ce que les Français ne savent pas assez aussi, c'est que ce système les vole également, après avoir volé les Africains. Parce que non seulement on pille les richesses de l'Afrique de toutes sortes de manières, on pille ses matières premières, on a des monopoles d'importation qui font que les Africains payent beaucoup plus cher tout un tas de services et de biens, mais aussi on vole les Français. Parce que un autre aspect de ces détournements, c'est le pillage massif de l'aide publique au développement, qui est de l'ordre de 6 milliards d'euros par an. C'est également le détournement scandaleux, invraisemblable, de l'argent prêté à ces pays, ce qui fait que la dette dont ils sont accablés et qui les empêche de financer leurs services publics de santé ou d'éducation, cette dette, en fait, ils n'en ont jamais vu la couleur. L'argent a été détourné par toutes sortes de paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est-à-dire ces endroits dans lesquels on peut planquer l'argent hors de tout regard public, sont au cœur de l'affaire Elf. Et il n'y a pratiquement pas deux minutes de la pièce de Nicolas Lambert où on ne parle des caisses noires dans les paradis fiscaux. Et tout ça, finalement, c'est le contribuable français qui paye. Car quand un pays ne peut pas payer ses dettes, on est bien obligé de faire la différence. Et ça, on la demande au contribuable français.
Le tribunal...
L'audience est reprise, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur André-Antoine Charles-Napoléon Tarallo. Offshore, vous voulez parler de plateforme pétrolière, monsieur?
Non, ça c'est exact en langage hydrocarbure. Non, je voulais parler d'une société non localisée en France, en métropole.
Exprimez-vous clairement, monsieur. Le tribunal parle très mal les langues étrangères. Vous voulez dire hors d'atteinte de l'administration fiscale française?
Voilà.
Un compte ou une société offshore, c'est un compte ou une société située dans un paradis fiscal.
Voilà. Mais le système existait depuis fort longtemps, en réalité. Depuis 1968. À cette...
Non, monsieur Tarallo, nous ne sommes plus en 1968. La question du...
Ce spectacle, c'est Elf, la pompe Afrique, un spectacle de Nicolas Lambert. On en reparlera demain, on se retrouve demain avec François-Xavier Verchave de l'association Survie, à lire de François-Xavier Verschave, Noir Chirac, aux éditions Les Arènes, site de l'association Survie, www.survie-france.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, technique aujourd'hui Sophie Moreno et Patrick Henry, l'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain donc à 17h pour Là-bas si j'y suis. Dans 1 minute 35 de pub, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. Salut. We'll be right back.